Alors, ce matin, pour notre message, alors nous allons lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous lirons les versets 8 à 12. Éphésiens 2, 8, 12. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une rupture par rapport à ce que nous avons prévu jusque-là, savoir l'étude de l'Épître de Jacques. C'est tout simplement une prédication préparatoire à la continuité donc de la prédication qui est conduite dans l'Épître de Jacques. Alors, Éphésiens 2, 8 à 12. Tout le monde y est, donc je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés par le sang de Christ. Ce matin, le message que je veux vous apporter, donc je l'ai intitulé « Le salut, son acquisition définitive ». Le salut, son acquisition définitive. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous le savons tous. C'est la justification gratuite de l'homme pécheur, non pas par une quelconque œuvre méritoire qu'il aurait faite, mais par la seule grâce de Dieu. La justification. Dans ma courte méditation tout à l'heure, je vous ai parlé de la régénération. Un aspect du salut. Et nous voyons ici la justification, un autre aspect du salut. Aucune œuvre méritoire, n'est-ce pas ? À la seule et unique condition de la foi en Jésus-Christ qui a lui-même tout accompli, absolument tout à la croix. C'est ce que nous venons de lire dans ce texte, donc de l'Épître aux Éphésiens. Que faut-il entendre par la justification ? Le mot qui a été traduit par « justification » vient de deux mots grecs. Le premier, c'est « dikaiosis », qui dénote l'acte consistant dans le contexte d'un tribunal à trouver quelqu'un vertueux. Ce mot signifie également acquittement. Le second mot est dikeona. Pardon, dikeoma, qui veut dire quoi? C'est une déclaration ou une sentence d'acquittement par laquelle Dieu acquitte les hommes de leur culpabilité. On a la sentence, on a donc la déclaration, la justification. C'est donc un acte juridique de Dieu. Dieu, à travers sa juridiction, déclare le coupable juste selon son critère de jugement, de justice. On imagine un peu le tribunal céleste, justifié. Historiquement, l'Église primitive a été confrontée à la remise en question de ce glorieux message que nous venons de lire. On peut se souvenir des combats de l'apôtre Paul pour le défendre en particulier. À plusieurs endroits dans l'Écriture, on le voit. Au Concile de Jérusalem, par exemple, en Acte 15, et dans l'Épître aux Galates, où il expose clairement ce combat, étude que nous avons réalisée ensemble. Aux Romains, au chapitre 11 et au verset 6, il est écrit ceci. Romains 11, 6. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Par la seule grâce en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, incontestablement. Il n'y a donc ni mélange, ni compromis possible entre la doctrine de la justification par la foi et celle de la justification par les œuvres. Elles s'excluent mutuellement. Le catholicisme a d'une certaine façon retenu du salut un langage évangélique. On parle de la grâce aussi, on parle de la foi, de l'œuvre de rédemption de Jésus. Le véritable enseignement du catholicisme est le salut par les œuvres. Le ciel, ça se mérite, dit-on. Les notions évangéliques dont il se réclame sont par là même dénaturées. C'est un autre évangile dont parle d'ailleurs Paul dans ses épîtres. Loin de moi d'annoncer autre chose que Jésus-Christ crucifié. En dehors de cela, c'est un autre évangile. Le salut, peut-on le perdre? C'est la question à laquelle nous répondrons ce matin. Le catholicisme, en tant que religion des œuvres, prône justement la possibilité de perdre son salut. Exemple, un péché mortel entraîne aussitôt la perte du salut qu'il faudrait ensuite récupérer au moyen du sacrement de la pénitence, la confession au prêtre, l'absolution, et j'en passe. Très rarement, on a un accès direct au ciel. Vous passez par des sas, vous passez par des purgatoires pour la plupart. Après la réforme, certaines branches du protestantisme évangélique, notamment les luthériens depuis le XVIIe siècle, les méthodistes depuis le XVIIIe, les salutistes au XIXe et plus récemment les pentecôtistes rejettent la doctrine une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Parfois, d'ailleurs, avec véhémence, avec force, comme une doctrine dangereuse, voire diabolique, car elle peut encourager le croyant à penser qu'il peut pécher impunément. Voilà la motivation profonde. Ce matin, donc, nous regarderons plusieurs passages bibliques qui enseignent avec force que tous ceux qui se repentent réellement de leurs péchés et mettent réellement, absolument, leur foi en Jésus-Christ sont définitivement sauvés et donc qu'aucun ne se perdra jamais. Ensuite, nous verrons des textes qui, en apparence, semblent enseigner le contraire et je vous proposerai des explications appropriées, toutefois, sans affaiblir la force de ces passages. Donc voilà un peu le plan de la prédication ce matin, après un rappel doctrinal sur le salut. Maintenant, nous allons aborder profondément ce qu'il en est de son devenir. Peut-on perdre son salut? Le premier point, c'est que le salut est acquis une bonne fois pour toutes. Donc nous allons aborder la doctrine une fois sauvé, toujours sauvé, à la lumière donc des Écritures. D'abord, qu'est-ce que le salut? Donc revenons aux fondamentaux. C'est quoi le salut? Il y a un texte très connu du monde évangélique, c'est Jean 3,16, que vous connaissez tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réponse est dans le texte. Le salut, c'est la vie éternelle. Tout le contraire, justement, de la mort éternelle. Ce texte, je le trouve très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup des évangélistes qui reprennent ce texte à leur compte. Mais oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour quiconque. C'est bien écrit, quiconque croit. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Qui est concerné? Quiconque croit, ça veut dire qu'aucun croyant authentique ne périra jamais. Nous avons déjà cette première certitude dans ce passage. Quiconque croit, aucun croyant authentique ne périra Jamais. La parole de Dieu est assez claire là-dessus. C'est le Seigneur lui-même. Ainsi, dès lors que l'on croit, quand commence la vie éternelle ainsi promise? Quand est-ce que cette vie éternelle commence? On va voir plusieurs textes dans l'Écriture. Toujours dans l'Évangile de Jean, Jean 3, au verset 36, il est dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Autre passage, toujours dans Jean, cette fois-ci dans le chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à nouveau, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, nous avons la réponse dans le texte, dans les deux, du moins. Le temps présent, il a la vie éternelle. Ça veut dire, dès maintenant, dès à présent, il ne sera jamais condamné. Il est déjà et définitivement passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Aussi, on peut s'interroger, pourrait-il y avoir néanmoins des exceptions mentionnées autre part dans la Bible ? Nous n'avons vu que deux versets. Jean 6, 36. On va un peu chercher, fouiller nos Bibles ce matin. Je pense que c'est important. Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alors, question, des âmes auraient-elles été perdues? Toujours dans le même contexte, cette fois-ci, c'est le verset juste après, donc 6:40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Une fois encore, quiconque croit au Fils à la vie éternelle. Donc, aucun ne se perdra. Pourquoi? Parce que, justement, le Fils est venu accomplir la mission qu'il a reçue du Père et à ce titre, ne perdra aucun de ceux qui viennent à lui et qui soient sauvés par lui. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Clairement, Christ a parfaitement accompli sa mission. En Jean 17, 12, Jean 17, 12, Jésus dit, Lorsque j'étais avec eux dans le monde, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et, écoutez bien, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Aucun, sinon le fils de perdition. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Christ est maintenant assis à la droite du Père. Donc là aussi, on peut faire des objections pour aller un peu plus loin sur la question donc, de la pérennité, de l'éternité du salut. Le seul de ses disciples à n'avoir pas été gardé est Judas, vous en rappelez, appelé justement le fils de la perdition, autrement dit, celui qui devait se perdre. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a jamais été sauvé. Voilà la réponse. Judas n'a jamais été sauvé. Et justement, sur le cas de Judas, on peut légitimement se demander si un croyant pourrait se perdre par sa faute. Un croyant peut-il se perdre par sa faute? Jean 10, les versets 27 à 29, qu'on a médité il n'y a pas longtemps. Jean 10, 27, 29. Que dit le Seigneur? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Une fois encore, Jésus affirme avec insistance que la vie éternelle signifie que ceux qui l'ont reçue ne périront jamais. De plus, ici, il ajoute que ceux qui ont reçu la vie éternelle sont dans sa main ainsi que dans la main de son Père. Une double assurance. Et comme si cela n'était pas suffisant, il ajoute encore que personne ne peut les ravir ni de sa main, ni de la main de son Père. Si comme certains le pensent, le mot « personne » employé dans ce verset n'exclut pas le croyant lui-même. Alors, personne exclut aussi le diable. Si tel est le cas, qui pourrait se sentir rassuré par cette personne, par cette promesse si forte, si le diable pourrait le persuader de s'extraire de la main du Seigneur? Donc, vous voyez que ça ne tient pas debout du tout comme objection. L'Écriture enseigne aussi que Jésus prie afin que ceux que Dieu lui a donnés et qui viennent donc à lui, c'est en Jean 6, 37, soient avec lui dans l'éternité. La prière du Seigneur. Cette prière veut-elle dire que certains pourraient se perdre? On peut se poser la question. Certainement pas, car le Père exauce toujours le Fils. Par conséquent, cette prière sera assurément exaucée. Christ est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui me délivrera de l'amour de Christ ? S'exclamait Paul. Le salut final de tout vrai croyant résulte de la prière de Jésus-Christ. Nous sommes instamment sauvés, comme on l'a vu, et ceci est garanti jusqu'à son avènement par la prière de Christ. Qui nous garde ? Souvenons-nous de Pierre, qui insistait pour dire que jamais il ne trahirait le Seigneur. N'est-ce pas ? Mais oui, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, parce que Satan t'a réclamé pour te cribler tel du froment. Heureusement que le Seigneur prie pour nous. On revient à la grâce. La grâce infiniment grande, ô combien excellente, de Dieu. Paul, Jean, Pierre et d'autres auteurs des livres du canon biblique affirment également le caractère définitif du salut. Lorsque Jean écrit, donc c'est 1 Jean 5, 13, dans sa première épître, donc je voulais chercher 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris car vous avez la vie éternelle. Bien sûr, pourquoi il écrit ? Pourquoi il annonce de telles promesses ? Si nous avons la vie éternelle à présent, et si l'on doit la perdre, conviendrez avec moi que ça n'a pas de sens. À quoi ça sert d'être assuré d'avoir à présent la vie éternelle si on doit la perdre? En réalité, l'œuvre que Dieu a commencée dans le croyant, il la mènera jusqu'au bout. C'est ce que Paul dit aux Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le salut authentique du croyant, ou du moins le salut pour un croyant authentique, ne se perdra jamais. Ainsi, ou du moins aussi, comment comprendre alors que celui qui a été régénéré par le Saint-Esprit, nous en avons parlé tout à l'heure, régénéré par le Saint-Esprit, peut-il être ensuite pas trouver l'adjectif correspondant, mais ça ressemble à ça, dérégénéré. Pas possible, on ne l'a jamais vu dans l'Écriture. Régénéré et un retour en arrière. On n'a pas de qualificatif, c'est une opération impossible. Comment comprendre que celui qui a été justifié puisse ensuite être non justifié ou déjugé. Je n'ai pas de mots pour qualifier une telle attitude, simplement pour attester que c'est possible. Dieu aurait-il une justice à plusieurs vitesses. Celui qui a été élu pour être sauvé peut-il être ensuite... Je n'ai pas non plus de qualificatif pour exprimer le contraire de quelqu'un qui a été élu par la grâce de Dieu. Vous voyez, manifestement, c'est tout simplement impossible. Un autre exemple, un nom, ça vous le savez, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Avant même les temps éternels, rendez-vous compte. Alors, un nom écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie, destiné à être sauvé, ceci vous pouvez le retrouver dans le livre de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 13, verset 8, ou 17 à 8. Comment un nom écrit depuis ce temps, destiné à être sauvé, peut-il être retranché, effacé? Donc vous avez autant d'exemples qui illustrent le caractère définitif de notre salut. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'atteste. Promesse reliée par les apôtres, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors maintenant, on va passer au deuxième point du message, à savoir examiner quelques textes qui semblent indiquer la perte du salut. Il y en a plusieurs textes, mais on va voir juste quelques exemples. Précisément, on va voir des textes qui semblent même décrire des croyants avec la perte du salut. Un exemple, vous pouvez le trouver dans 2 Pierre, 2 Pierre 2, versets 20 à 22. 2 Pierre 2, 20, 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Voilà un exemple qui en apparence indique effectivement une perte de salut. Et cela mérite effectivement une explication de texte. Que dit ce texte? Ça veut dire que grâce à une certaine connaissance de Christ et des commandements de Dieu, dans un premier temps, ces personnes se retirent des souillures du monde, en se joignant, par exemple, à l'Église universelle, avec un grand E. Mais, plus tard, elle s'y replonge en quittant l'Église avec un grand E, l'Église universelle, j'entends bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle n'était pas née de nouveau. Nous en avons parlé tout à l'heure. Être régénéré, né de nouveau. Et pour preuve, elles sont comparées à quoi? D'abord à un chien. Pourquoi un chien? Parce que par le passé, le chien était considéré comme un animal impur qui retourne à ce qu'il a vomi. L'animal impur, donc non régénéré, non purifié. On a parlé tout à l'heure donc de la purification spirituelle de l'âme. Le chien. Ensuite, un cochon qui, après avoir été lavé, se vautre de nouveau dans le bourbier. Pourquoi il le fait, le cochon?
Parce que sa nature est cochon.
Voilà, exactement. Il est cochon, il restera cochon. Voilà, donc, à nouveau, ben, nous avons la preuve ici que ce texte ne parle pas de la perte du salut. Parce que le salut est acquis irréversiblement, définitivement. Autre exemple, certains textes affirment clairement qu'il faut persévérer dans la foi pour être sauvé à la fin. L'Écriture le dit très clairement. Exemple, Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il le dit clairement. Et d'autres textes avertissent clairement que celui qui ne persévère pas dans la foi sera perdu. On le voit dans Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Conclusion, avoir la foi implique donc de persévérer dans la foi. Ces passages s'accordent parfaitement avec les promesses qu'un croyant ne sera perdu, car selon la parole de Dieu. Persévérer dans la foi. Tout vrai croyant persévère dans la foi. Comme le dit Jean, chapitre 8, les versets 3 à 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » N'est-ce pas ? La persévérance n'est pas l'ennemi de la foi. Ça va de pair. Si nous avons la foi, nous allons persévérer. Et donc, celui qui ne persévère pas n'est pas un vrai croyant. C'est ça que ça veut dire. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, on peut lire ce que dit le texte. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et que dit le Christ lui-même à ce propos? En Matthieu 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, les personnes croyantes en question ne perdent pas le salut. Ils n'ont jamais été sauvés. Voilà la raison. Ce n'est pas une perte de salut. Ils n'ont jamais été sauvés. Persévérer dans la foi jusqu'à la fin de sa vie est certes nécessaire pour être sauvé. Mais c'est Dieu lui-même qui fait persévérer le croyant. Quelle grâce excellente! Chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est un résumé simple, mais c'est biblique, c'est la réalité biblique. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Dieu est souverain. C'est la sphère privée de l'Éternel. Qui a été dans le conseil de Dieu? Qui? Dieu est souverain en toutes choses. Soyons dans une reconnaissance infinie pour la grâce qui nous a été donnée. Rendez-vous compte, c'est Dieu lui-même qui fait persévérer le croyant. Ça traverse l'Écriture. Quand vous lisez l'Épître de Pierre, il le dit. Gardez par la foi jusqu'au temps marqué. L'avènement du salut. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Quelle grâce! Quelle grâce! Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Absolument rien. Les œuvres n'ont aucune part. Les œuvres dont on parle, ce sont les œuvres de la foi. Sauver. Pour accomplir les œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas les œuvres humaines. La parole est très claire. 1 Corinthiens 1:8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance, la régénération, cette connectivité d'en haut, cette relation filiale que nous avons avec Jésus-Christ doit nous conduire journellement. Il n'y a pas de répit spirituel. Nous devons être conduits au quotidien par l'Esprit. Alors, pour conclure, je dirais qu'ainsi, le salut offert à quiconque se repent et croit est un salut éternel qui ne pourra jamais se perdre. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est le merveilleux message que nous devons proclamer de façon tout aussi catégorique, franche, ferme que Jésus-Christ et les apôtres, incontestablement. Tous ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ ne périront jamais. Et peuvent donc, dès à présent, en louer Dieu et se réjouir d'avance de la gloire éternelle qui les attend. Nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur. Amen.